universelle.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie dont voici les titres. Coup de pouce en Côte d'Ivoire pour l'industrie du diamant.
Les activités du projet DPDDA font partie de la stratégie de transition post-embargo et combinent les domaines de droit de propriété, le développement économique, la bonne gouvernance et la communication pour le changement de comportement.
Notre correspondant Germain Dry a tous les détails. Des ONG suisses et américaines dénoncent la position hégémonique de sociétés suisses dans les ventes de pétrole africain et le surendettement de la Chine inquiète. Ces titres et d'autres seront développés dans moins de 5 minutes, je vous l'ai dit, avec Camille Gros-Didier. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a rencontré pour la première fois des parents de jeunes filles enlevées par les islamistes. Plus de 150 personnes ont assisté à cette réunion à huis clos à Abuja. 100 jours après l'enlèvement des lycéennes à Chibok, les parents ont exprimé leur frustration sur la lenteur du gouvernement à fournir des informations et des efforts pour obtenir la libération de leurs enfants. À Kinshasa, un groupe d'assaillants a tenté de prendre le camp Tchatchi dans l'ouest de la capitale. Le gouvernement parle de malfrats. La garde républicaine a été déployée en force après avoir fait évacuer l'aéroport de Ndili. Après des tirs nourris, le calme est revenu. En Libye, près de 16 personnes ont été tuées hier et 80 autres blessées dans des affrontements avec des groupes islamistes à Benghazi. Une source hospitalière a indiqué à l'AFP que la plupart des morts et blessés sont des militaires. Les affrontements ont éclaté après une attaque conduite par le Conseil de Choura des révolutionnaires de Benghazi, une alliance d'islamistes et de djihadistes contre une caserne militaire. Au forum de Brazzaville, les ex-Seleka ne sont pas venus au deuxième jour de la rencontre. Hier, le chef de la délégation des ex-rebelles, Mohamed Moussa Dafan, a demandé la partition de la Centrafrique pour sortir de la crise. Idriss Fall.
Les représentants des ex-Seleka ne sont pas venus ce mardi au Palais des Congrès. Hier, Mohamed Moussa Dafan, le représentant, a exigé la partition du pays pour sortir de la crise. Une déclaration qui a suscité beaucoup de remous. L'état-major des ex-Seleka basé à Bambari se dit favorable à n'importe quelle position adoptée par ses représentants à Brazzaville. À Bangui, réaction de Martin Zigele, président de l'Alliance des forces démocratiques pour la transition.
Tous les responsables des partis membres de l'AFDT ont dit que la question de l'unité de notre pays, c'est le premier mot de notre devise. Donc pour nous, c'est une question sacrée. Il ne peut pas y avoir de débat politique autour de la question de l'unité de la RCA. Donc il n'y a pas de négociation politique possible. Ça ne doit même pas faire l'objet de surenchères politiques. Il faut que cela soit clair parce qu'il y a des notions pour lesquelles des vies ont été sacrifiées dans ce pays, dont l'unité de notre pays.
Le forum de Brazzaville est censé se terminer demain par la signature d'un accord de cessation des hostilités.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé Israël et le Hamas à déposer les armes pour faire cesser les violences dans la bande de Gaza. Ban Ki-moon intervenait lors d'une conférence de presse avec le premier ministre israélien à Tel Aviv, Jacques Aristide.
Arrêter de combattre, commencer à parler, c'est le message du patron de l'ONU aux Israéliens et Palestiniens au 15e jour du conflit meurtrier. Ban Ki-moon s'était auparavant rendu au Caire avec le secrétaire d'État américain pour tenter de mettre un terme au combat. John Kerry a rencontré le président Abdel Fattah el-Sissi, le chef de la diplomatie américaine, s'est prononcé non seulement pour un cessez-le-feu, mais aussi en faveur de la reprise rapide du processus de paix israélo-palestinien. Mais sur le terrain, aucun signe d'apaisement ce mardi. Les frappes aériennes menées par l'État hébreu ont fait au moins 10 morts dans la bande de Gaza, tandis que des roquettes ont été lancées vers Israël à partir de cette région contrôlée par le Hamas. Quant au bilan depuis le début du conflit, il s'élève à plus de 600 morts, principalement des civils, d'après les Palestiniens. Côté israélien, l'armée rapporte que 27 soldats et 2 civils ont été tués.
En Ukraine, les dépouilles de près de 300 personnes tuées dans le crash de l'avion malaisien ont été transportées par train dans la ville de Kharkiv, dans l'est du pays. Les corps doivent être remis aux Pays-Bas, qui ont perdu le plus grand nombre de ressortissants dans ce drame. Le transfert des dépouilles fait suite à la remise des boîtes noires de l'avion à des experts de l'aviation malaisienne. Ici aux États-Unis, le gouverneur du Texas, Rick Perry, a décidé d'envoyer 10 000 soldats de la garde républicaine à la frontière de son État avec le Mexique. M. Perry cherche ainsi à endiguer la récente vague d'immigrants, de migrants d'Amérique centrale, dont 50 000 enfants non accompagnés qui sont entrés illégalement aux États-Unis.
Washington, la Voix d'Amérique, Camille Grodidier avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. En Côte d'Ivoire, un coup de pouce à l'industrie du diamant.
Les activités du projet DPDDA font partie de la stratégie de transition post-embargo et combinent les domaines de droit de propriété, le développement économique, la bonne gouvernance et la communication pour le changement de comportement.
Tous les détails avec notre correspondant Germaine Dri. Des ONG suisses et américaines dénoncent la position hégémonique de sociétés suisses dans les ventes de pétrole africain.
Les négociants suisses se montrent apparemment particulièrement habiles pour obtenir des quotas d'exportation, si bien qu'ils dominent dans la plupart des grands pays producteurs d'Afrique subsaharienne.
Marc Guénia, enquêteur de l'ONG Déclaration du Berne, nous en dira davantage. Mais tout d'abord, le surendettement de la Chine inquiète. L'endettement de la Chine, aujourd'hui la deuxième économie de la planète, a battu un record fin juin. Ce n'est pas tant le niveau de la dette chinoise qui inquiète que sa rapide croissance ces derniers mois. La dette totale, publique et privée, de la Chine a atteint 251% du PIB fin juin, contre 147% fin 2008, selon une estimation de la banque Standard Chartered. Des hausses d'une telle ampleur sur une courte période inquiètent les marchés. Si l'endettement chinois est encore loin de celui de l'Espagne qui dépasse les 300% ou même des États-Unis à 260% du PIB, c'est un niveau très élevé pour un pays émergent. Pour le Japon également, une mauvaise nouvelle, alors que son endettement total plafonne à 415% du PIB, le gouvernement japonais a baissé mardi de 0,2 point à 1,2% sa prévision de croissance pour l'année budgétaire en cours d'avril 2014 à mars 2015. Le début de cette nouvelle année a coïncidé avec le passage à 8% de la TVA japonaise qui n'était auparavant que de 5%. Et les exportations n'augmentent pas suffisamment pour combler le manque à gagner. Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie en compagnie de Camille Grodidier. Côte d'Ivoire, lancement lundi du projet droit de propriété et de développement du diamant artisanal en présence du ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, et de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McCulley. Le projet DPDDA2 est une initiative cofinancée par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement international, le USAID, et l'Union européenne. L'embargo qui frappait les exportations de diamants ivoiriens ayant été levé, le projet vise à augmenter le volume de diamants légalement exportés tout en améliorant les conditions de vie des communautés minières. Pour plus de précisions, je vous propose ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
Les activités du projet DPDDA font partie de la stratégie de transition post-embargo et combinent les domaines de droit de propriété, le développement économique, la bonne gouvernance et la communication pour le changement de comportement. Cette approche pluridisciplinaire vise, selon le directeur du projet, à transformer le secteur pour mieux profiter aux communautés et à l'État. Pour y parvenir, plusieurs actions sont envisagées. Terra De Jong.
Notre raison d'être, c'est d'apporter une assistance technique pour renforcer les contrôles internes des États producteurs, c'est-à-dire les systèmes qui régissent les diamants de la mine jusqu'à l'exportation. Augmenter le volume de diamants qui entrent dans la chaîne légale. Le diamant ne se mange pas, mais dans son temps, il a fait manger plus de 200 000 personnes en Côte d'Ivoire.
Au nom des bailleurs de fonds, réunis au sein du groupe des Amis de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a fait remarquer que malgré la levée de l'embargo, des efforts restent à faire. Terence Marculé.
Il est important de garder à l'esprit que la levée de l'embargo n'est pas une fin en soi, mais fait partie d'un processus à long terme. Et au-delà du soutien continu du groupe des Amis, le projet PRADE 2 offre la voie de véritablement consolider ses acquis. J'espère que le gouvernement de la Côte d'Ivoire profitera de l'assistance apportée à travers PRADE 2 comme faisant partie de ses efforts pour résoudre les autres problèmes réglementaires et normatifs complexes et connexes tels que l'exploitation artisanale de l'or et le cadre juridique du foncier afin d'établir des conditions durables de paix et de sécurité de façon générale.
Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, le processus amorcé suivra son cours. Jean-Claude Brou.
Cette étape de la levée de l'embargo marque un tournant important dans le programme de relance et de dynamisation du secteur du diamant. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'attelle actuellement à préparer l'ouverture des bureaux d'achat de diamants avant la fin de l'année 2014 en vue de compléter la chaîne de traçabilité du diamant par l'exportation.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
L'initiative visant à relancer le secteur du diamant en Côte d'Ivoire témoigne des efforts pour relancer l'économie en vue de permettre au pays de redevenir la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, comme c'était le cas avant le conflit civil. Alors, quelles sont les perspectives de l'économie ivoirienne vue de l'extérieur? On écoute le professeur Philippe Hugon, spécialiste de la Côte d'Ivoire.
Elle a une situation de rattrapage par rapport à la stagnation économique. Elle a longtemps été la locomotive de la zone UMOA. Elle a connu une crise d'environ 10 ans. Et maintenant, elle est très nettement sur le rattrapage par rapport au processus ancien. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a des taux de croissance de 10% que l'économie est totalement repartie, puisqu'il y a l'effet compensation de la baisse. Ceci étant, il est évident qu'il y a également une grande mobilisation des investisseurs extérieurs, des bailleurs de fonds. Ouattara reçoit un appui important de la communauté internationale, a des liens privilégiés de fait avec la France. Et donc, on est dans une économie qui investit, où il y a évidemment énormément de projets. Vous avez parlé du pont, le troisième pont d'Abidjan, mais il y a beaucoup de projets dans les télécommunications. Il y a des secteurs qui sont très dynamiques. Il y a des opportunités dans le domaine de la banque, dans le domaine des télécommunications, dans les différents domaines, y compris énergétiques. Donc, il est évident que la Côte d'Ivoire, qui a quand même un niveau de revenu supérieur à la moyenne des autres pays de l'UMOA, qui est un pays qui a quand même une structuration par un État qui fonctionne, etc., est évident que c'est une économie, je l'appellerai pas émergente, mais qui offre des opportunités, d'où la mobilisation notamment des grands chefs d'entreprise, des multinationales ou des firmes françaises.
Mais n'y a-t-il pas des bémols à cette réussite économique ivoirienne ?
Il y a quand même des bémols à apporter. Il y a quand même le fait que c'est une économie qui est fragile par des risques d'instabilité. Le processus de réconciliation politique n'a pas été vraiment réalisé complètement, d'où l'importance de réintégrer le FPI dans le jeu et d'avoir évidemment une justice qui n'apparaît pas à des vitesses selon que l'on était pro-Ouattara ou pro-Gbagbo. Il y a également le fait que le désarmement n'a pas été totalement assuré. On n'est pas dans une économie, à mon avis, complètement sécurisée, où il peut y avoir des instabilités. Si ce n'est politique, je pense qu'actuellement, on a une certaine stabilité politique, du moins en termes de sécurité du territoire.
Le professeur Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS en charge de l'Afrique, il était joint par Nicolas Pinault. Camille Grodidier avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. À Dakar, la zone des Niaï est en danger. Cette zone qui privilégie la culture maraîchère est sur le point de disparaître du fait du morcellement des terres cultivables, souvent recyclées dans l'immobilier. Les autorités en charge du secteur sont conscientes que la disparition des Niaï serait catastrophique, si l'on sait que 80% des produits frais consommés à Dakar viennent des Niaï. Notre correspondante au Sénégal, Dienaba Seydouba, explique.
La zone des Niaï de Dakar est en danger. Cette bande étroite d'une longueur de 180 km produit 80% de la production horticole sénégalaise. Les Niaï assurent l'approvisionnement de l'agglomération dakaroise en produits frais. Bara Cissé de la coopérative agricole Samamomel à Bambilor.
Il s'agit, n'est-ce pas, d'un domaine de 25 km² dont les trois quarts sont exploités. Nous avons dénombré 1042 vergers et fermes avicoles. Et à l'intérieur, il y a des milliers d'emplois. Les femmes s'activent autour, n'est-ce pas, de ce domaine et nos employés viennent, n'est-ce pas, de toutes les régions du Sénégal. Donc, c'est un pôle d'excellence agricole. Il est rare, je crois, de trouver dans le pays 10 km² mis en valeur comme ce domaine-là.
La principale difficulté des Niaï, c'est le morcellement continu et ravageur des terres. Une véritable menace à l'activité agricole au niveau des Niaï. Massaïr Gueye de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole.
Et le domaine sur lequel nous sommes appartient à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Mais comme vous le voyez, il y a une superficie d'environ 75 hectares ici qui a été lotissée en habitation à notre insu. Ce qui fait qu'il y a un empiètement très grave au niveau de notre station de recherche qui repose sur un titre foncier. Nous avons un programme de mise en place d'une grande collection nationale fruitière, également de parcelles de démonstration horticole, maraîchage, arboriculture, fruitière, floriculture, mais c'est sur cette étendue qu'on devra le faire, mais on ne peut plus le faire.
La zone des Niaï menacée, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural tire la sonnette d'alarme. La disparition des Niaï serait catastrophique pour Dakar, selon Papa Abdoulaye Seck.
La disparition de la zone des Niaï va avoir incontestablement comme conséquence directe une hausse vertigineuse des prix des fruits et légumes, va avoir comme conséquence aussi une dégradation de l'état nutritionnel des populations, l'effondrement des revenus provenant de l'horticulture. C'est pourquoi le président de la République a instruit à l'ensemble des services administratifs de tout mettre en œuvre afin que nous préservions la zone des Niaï. Ce que j'ai constaté, c'est une urbanisation sauvage et galopante qui n'est pas de nature à favoriser la matérialisation des objectifs que le gouvernement du Sénégal fixe au secteur horticole.
Le gouvernement sénégalais s'est fixé comme objectif une autosuffisance en oignons à l'horizon 2016 avec une production de 350 000 tonnes et la relance des exportations horticoles qui passerait de 60 000 tonnes actuellement à 150 000 tonnes. Un objectif qui ne sera pas atteint sans une zone des Niaï protégée. Dienaba Seydouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grodidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. République démocratique du Congo, eh bien Goma a marqué récemment la 5e édition de la semaine de la pomme de terre et cette semaine a regroupé les agriculteurs et les acteurs qui interviennent dans la commercialisation de la pomme de terre dans la région des Grands Lacs. Il était question d'analyser les dédits de la culture et sa commercialisation dans la sous-région. Je vous propose un reportage de notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudaigua.
Le président de la Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo, Mboussa Lumalisa Achille, souligne que cette activité a été initiée pour rapprocher les producteurs de la région des Grands Lacs et occasionner ainsi des échanges d'expériences dans la production de la pomme de terre.
Que nous devons pouvoir analyser tous ces défis, pourquoi pas donner des perspectives d'amélioration pour que l'écoulement soit fait vraiment avec dans des conditions qui soient bonnes. Pour la commercialisation, il y a des problèmes de stockage, il y a un problème de transformation, et il n'y a pas d'infrastructure pour ça. Donc nous devons aussi échanger autour de ça pour que dans l'avenir, nous puissions améliorer la filière pomme de terre.
Les invités d'autres pays de la région ont saisi cette opportunité pour consolider les relations entre les producteurs de ces secteurs. Pour Joseph Kafaranga, venu du Rwanda, ce sont les échanges réciproques, d'autant plus que chaque pays dispose de ses potentialités naturelles.
Les agriculteurs congolais, en collaboration avec les agriculteurs rwandais, ils échangent les indices, les technologies qu'ils utilisent pour augmenter la production. Il y a d'autres technologies aussi que le Congo a qui peuvent aider les Rwandais.
Les bénéficiaires de la semaine Pommes des Terres apprécient le déroulement de cette activité. Alphonse Neyoita est un agriculteur de Massissi.
Les bilans en général, il a été très positif. Pourquoi ? Parce que les activités prévues durant cette semaine Pommes de Terre, j'estime que à 90%, elles ont été réalisées. Et ce qui a impressionné la communauté, 1 kg de la pomme de terre Penap, c'était 200 francs. Et 1 kg de la pomme de terre variété, c'était 250 francs. Alors que dans les dépôts, 1 kg à moins, c'est 400 francs.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie, ici Washington, La Voix de l'Amérique. Trois ONG suisses et américaines, la Déclaration de Berne, SwissAid, et le Natural Resource Governance Institute ont dénoncé lundi la position hégémonique des sociétés de négoce suisses dans les ventes de pétrole par des gouvernements africains et l'opacité de ces transactions. Entre 2011 et 2013, ces sociétés suisses ont accaparé une part de marché de 25% dans le secteur du pétrole mis en vente par les États subsahariens et les compagnies publiques, précisent les ONG dans un rapport publié lundi en Suisse. Cette part de marché représente 55 milliards de dollars et l'intégralité du produit de ces ventes n'atterrit pas dans les caisses des États, explique Marc Guignat, enquêteur de la Déclaration de Berne.
Les négociants suisses en matière première, et en particulier dans le pétrole, se rendent dans les pays africains et rencontrent les dirigeants de ces pays, en particulier les dirigeants des compagnies pétrolières nationales, donc des compagnies à capitaux publics, qui sont chargés, pour le compte du gouvernement, de mettre en vente le pétrole de l'État. Et les négociants suisses se montrent apparemment particulièrement habiles pour obtenir des quotas d'exportation, si bien qu'ils dominent dans la plupart des grands pays producteurs d'Afrique subsaharienne.
Donc vous parlez des 10 principaux pays producteurs, et tout ceci, ça représente combien, en fait, si on parle d'argent liquide ?
D'après les données qu'on a réussi à réunir pour les années 2011 à 2013, sur ces 10 pays, les négociants suisses en matière première ont acheté pour environ 55 milliards de dollars de pétrole auprès des gouvernements africains. Ça représente à peu près un quart de la part de marché sur les données qu'on a pu réunir. Donc.
Mais cet argent, il va où ?
C'est une excellente question. Je pense qu'il faudrait poser la question au gouvernement concerné. Et c'est le sens de notre travail de recherche. C'est pour permettre finalement aux populations de ces pays de se poser des bonnes questions et de poser les bonnes questions surtout à leur gouvernement pour dire, mais écoutez, finalement, où est-ce que va cet argent ? Chaque année, on gagne des milliards de dollars avec ces ventes de pétrole et puis on n'en voit pas la couleur sous forme d'infrastructures, sous forme d'écoles, sous forme d'hôpitaux. Et je pense que la transparence qu'on essaye d'amener avec ce rapport, qui doit être encore largement amélioré à notre sens, est le début finalement d'une conversation entre les populations des pays producteurs et leur gouvernement.
Pour un pays comme le Nigeria et l'Angola, comment ça se passe, ces deux pays-là qui sont les gros producteurs d'ailleurs ?
L'Angola, c'est un petit peu l'exception en Afrique subsaharienne, dans la mesure où ce n'est pas, je dirais, un modèle, loin de là, au contraire, mais l'Angola privilégie la vente de son pétrole à des utilisateurs finaux, c'est-à-dire essentiellement des raffineries. Donc dans ce pays, les négociants suisses sont assez peu présents, du moins sur le segment de l'exportation du pétrole brut, mais ils achètent quand même des quantités qui sont relativement importantes. Et par contre, au Nigeria, alors là, c'est tout le contraire. Les négociants suisses dominent. Et sur les trois années sous revue, ils ont acheté pour plus de 37 milliards de dollars de pétrole brut, qui représente quand même entre 18 et 20% du budget de la première économie du continent.
Et qu'en est-il pour le Tchad alors ?
Tchad, d'après les données qu'on a pu récolter, c'est très simple. C'est un monopole de la société suisse Glencore qui achète 100% du pétrole mis en vente par le gouvernement.
Marc Guignat, enquêteur de la Déclaration de Berne, une ONG suisse, il était interrogé par Idriss Fall. Ici Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. Tout comme les pays industrialisés, les pays en voie de développement ont des réels problèmes d'inégalité des revenus. La croissance économique rime difficilement avec l'équité sociale, fait remarquer notre correspondant au Mali, Kassim Traoré, ce qui fait que les citoyens ne sont pas satisfaits dans le partage des biens du pays. On l'écoute.
La croissance économique, par définition, est la variation annuelle du produit intérieur brut d'un pays ou d'une nation. Elle détermine la santé économique d'un pays à travers la production des biens et des services, ainsi que la création d'emplois. Au fil des années, le concept de produit intérieur a évolué. Abdoulaye Niang, économiste.
Et dans les années 70, le concept de produit intérieur brut a pris la place du produit national brut. Donc quand il y a produit intérieur brut, ça veut dire qu'il y a de la richesse qui est générée, des emplois générés, mais on ne fait pas de distinction à qui appartient la richesse et l'emploi. C'est-à-dire que c'est sans distinction de la nationalité, mais plutôt c'est la richesse et les emplois de la nation. Alors que le PNB, le produit national brut, on distingue la nationalité. On dit que c'est ce qui appartient aux Maliens. Donc quand il y a de la richesse générée, maintenant aujourd'hui, à travers le PIB, c'est pour tout le monde.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la croissance économique rime difficilement avec équité sociale. La fracture entre les bons points économiques et le niveau de vie des populations reste important.
Et c'est ce qui est la situation paradoxale du Mali, qui aujourd'hui, grâce à des mesures et des programmes de stimulation du développement de la capacité de création de croissance économique du Mali, a permis de faire du Mali un élève excellent en matière de création de croissance économique à travers 9 mines d'or industrielles, à travers sa position dans la production du coton, à travers la téléphonie. Donc finalement, le Mali est noté très bon élève, ou bien un élève excellent. Mais maintenant, en ce qui concerne les ménages, les populations, vous et moi, la rétention de la richesse et des emplois de la nation ne permet pas à vous de dire que l'or qui brille pour la nation du Mali brille au sein de votre ménage.
Pour assurer une meilleure répartition de la richesse d'une nation, il existe cependant des stratégies et la clé de voûte de ces stratégies demeure la bonne gouvernance. Abdoulaye Niang, économiste.
Pour qu'il y ait un partage équitable de la richesse et des emplois de la nation, il nous faut une vision de globalisation du co-entrepreneuriat. Cette vision doit être axée sur la prospérité partagée. Mais une prospérité partagée qui amène d'abord la stabilité, la paix et la sécurité, mais surtout le développement humain durable. Si vous générez 80 à 100 tonnes d'or par an et qu'on n'arrive pas à payer les fonctionnaires convenablement pour qu'ils aspirent pour aller vers leur classe de moyenne de richesse, c'est pas compréhensible.
Une chose est de créer la croissance économique. L'autre est d'assurer un partage équitable de la richesse entre les citoyens d'une même nation. Une équation à laquelle nombre de pays sont butés. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Washington, La Voix de l'Amérique, Anglo American Platinum, leader mondial du platine, a annoncé lundi son intention de céder ses mines sud-africaines Union et Rustenburg, ainsi qu'une société commune, signalent les médias. Pour l'agence Reuters, il s'agit d'une décision largement attendue après 5 mois de grève. La filiale d'Anglo-American a confirmé ce projet de désengagement de ses plus anciennes mines de platine d'Afrique du Sud dans le cadre d'une opération qui touche 20 000 emplois ou le cinquième de ses effectifs. Dans un environnement limité en termes de capitaux, nous avons décidé que nous sortirions des mines Union et Rustenburg et de notre société commune Pandora, a déclaré Amplat, qui est cité par Reuters. À l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, la société a précisé que la grève menée par le syndicat AMCU lui avait fait perdre 420 000 onces en termes de production. Son bénéfice par action a chuté de près de 90 %. Anglo-American avait averti en avril qu'il pourrait sortir de toute ou d'une partie de ses mines de platine en Afrique du Sud. Les analystes évaluent les deux mines à entre 1 et 2 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.